Si t'aurais pas existé, je t'aurais inventé.
Whatever.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CBL, au cœur de la vie citoyenne.
Bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5, l'émission de la Maison du développement durable. Je suis Maude Desbois, votre animatrice. Alors aujourd'hui, on parle des 100 ans de Frédéric Bach, on parle de la fête des mères avec Mère au front. On parlera également du tout récent livre « La dernière, si on la perd » paru aux éditions Quartz. Donc je reçois en deuxième partie d'émission Geneviève Bélan et Henri Jacob pour nous parler de ce processus d'écriture et du contenu beaucoup. Et pour commencer, on parle slow working avec Renée Ouimet, qui est directrice de Mouvement Santé Mentale Québec. Bonjour, Renée.
Bonjour.
Alors, slow working, là, je prends le terme anglophone, donc de ralentir au travail, si je comprends bien. Et avant de se lancer au cœur de ce sujet-là, j'aimerais que tu nous parles du Mouvement Santé Mentale Québec.
Alors, le Mouvement Santé Mentale Québec, c'est un regroupement d'organismes communautaires, puis notre mission, c'est de convaincre les élus, la population, les personnes du fait que la santé mentale, c'est bon, que ça fait partie de notre vie et que c'est possible individuellement et collectivement d'y travailler pour la créer, la développer, la renforcer. Fait qu'on est vraiment en promotion de la santé mentale, c'est-à-dire agir pour renforcer les capacités des personnes et des communautés.
Et ce qui vous différencie aussi comme mouvement, c'est le fait que vous travaillez en prévention.
C'est ça. C'est exactement ça, puis c'est notre défi parce que, tu sais, on est malgré tout une société qui investit beaucoup dans les soins, beaucoup dans le après, mais encore trop peu dans ce qui peut permettre de... Puis on le voit par rapport à l'environnement, que ça serait quel... tu sais, si on agissait tout de suite pour...
d'y aller en prévention plutôt que de guérir par la suite,
c'est ça.
Peu importe.
Alors, on le fait comme ça par rapport à tout, par rapport à la santé, par rapport à la santé mentale, par rapport à, à la délinquance, on peut le nommer partout.
Oui, c'est vrai que, effectivement, en tant que société, on est beaucoup dans le « oups, c'est arrivé, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
»
au lieu d'y aller plutôt dans la prévention, comme tu le dis, Renée. Et là, du 6 au 12 mai prochain, c'est la semaine de la santé mentale, donc c'est une semaine importante pour votre mouvement, bien que vous avez aussi votre journée nationale depuis 3 ans maintenant.
C'est ça.
qui est le 13 mars, si je me souviens bien. Donc, de quelle manière est-ce que vous investissez quand même cette période de l'année là, pendant la semaine de la santé mentale?
Pour le mouvement et ses membres, on fait toutes sortes d'activités pour rejoindre la population. Et une activité, je dirais que je fais pour moi.
Mais c'est bien, faire les
ça
choses pour soi.
Ça va être une conférence à la Maison du développement durable le 7 mai. Puis c'est changer de rythme, un geste révolutionnaire, point d'interrogation.
Le point d'interrogation est important.
C'est ça. Parce que je trouve qu'on est une société qui malmène les personnes, où on malmène nos corps, où on utilise notre énergie personnelle comme on utilise l'énergie de la planète. Et qu'on, tu sais, il y a plein de personnes qui sont en train de rentrer dans le mur à vitesse où on va, à ne pas avoir de temps de pause, pas décrocher, que notre cerveau est toujours sollicité. Puis c'est difficile de prendre du recul face à ça, se dire « Ah, là, je vais prendre une pause. » C'est tellement bien vu socialement quand on nous demande comment ça va, de répondre « Ça va vite, je suis tellement occupée. Ah, si tu savais, j'ai fait ci, ça cette semaine. » Si on dit « Hey, au travail, ça va bien de ce temps-ci, je prends le temps, j'ai le temps de régler mes dossiers, j'y vais un après l'autre. » à la maison, je prends 2 soirs par semaine où je fais juste ce qui me tente, on aurait l'air des vrais extraterrestres.
Disons que c'est moins courant comme
conversation. C'est moins courant.
Et donc, là, tu le disais, le mardi 7 mai, de 17h à 19h, tu seras en compagnie de Sylvain Dubé,
ouais.
Qui est directeur du COSM, le Réseau communautaire en santé mentale,
ouais.
À la Maison du développement durable. Et justement, dans la description de l'événement, c'est indiqué, quand on demande comment vas-tu, trop d'entre nous répondent, ça va vite, ça va trop vite. Et pour toi, comment ça va? Est-ce que ça va vite aussi? Arrives-tu?
Bien, la raison pour laquelle je veux faire cette conférence, c'est m'auto-convaincre.
Donc, c'est pour ça que tu c'est disais, je le fais aussi pour
parce
moi.
Que, tu sais, le sens et la passion dans la vie, c'est un moteur extraordinaire, mais en même temps, c'est un moteur qui peut nous épuiser aussi. J'ai la chance de jamais avoir fait d'épuisement parce que j'ai une capacité de décrochage assez exceptionnelle, puis tant mieux, tu sais, j'en remercie la vie. Mais on se rend compte que, tu sais, nos cerveaux sont prisonniers de la vitesse.
Oui.
Puis quand nos cerveaux sont prisonniers de la vitesse, on est plus stressé, on est moins enclin à créer des liens, à être créatif, on est plus impatient. Fait que ça a des enjeux sur qui on est comme personne, mais ça a des enjeux sociaux. Puis là, je parle juste du cerveau sans parler des impacts que ça a sur notre santé physique aussi. Mm-hmm. J'entendais à Radio-Canada la semaine dernière une danseuse qui disait, je me rappelle pas de la phrase exacte, mais j'ai toujours trouvé que c'était un pouvoir puissant d'être en lien avec notre corps, puis d'être capable de, tu sais, d'en prendre soin, de s'en occuper, de comprendre comment il fonctionne, puis d'être un allié plutôt que qu'il devienne notre ennemi, mais qu'il soit notre ami. Puis quand notre cerveau, on y donne des pauses, on est plus créatif, on a plus de stratégies pour transformer les choses, le stress diminue. Puis je trouve que même pour changer socialement des choses, on a besoin que nos cerveaux prennent des pauses aussi pour voir des avenues nouvelles, être capable de revoir les choses, parce qu'on voit toujours, tu sais, plus on est pris dans l'urgence, plus on voit une direction en particulier.
Ben oui, c'est difficile.
Puis qu'on n'a pas une vision à 360 degrés.
Mm-hmm.
Ben, je dirais que la conférence, je veux me convaincre moi-même de ralentir, et j'aimerais ça qu'on se questionne collectivement, qu'on se dise à quoi on dit oui avec ce rythme-là. Et l'impact sur nous, sur notre corps, sur la collectivité, sur les enjeux sociaux. Parce que comme je disais en début, je trouve qu'on consomme notre énergie comme on consomme l'énergie de la planète.
Donc à outrance et en dépassant nos limites.
C'est ça.
Beaucoup, beaucoup, effectivement. Donc pour toi, changer de rythme, c'est ça que ça signifie. C'est de pouvoir avoir du temps pour tout le reste, avoir de l'espace mental pour prendre soin de nos corps, prendre soin de nos émotions, de notre santé mentale.
Puis je fais beaucoup de conférences, puis je demande aux gens, ça me perturbe les réponses. Qui se sent surchargé? Dans la majorité des salles, il y a 90-95% des gens qui lèvent la main. Là, je pose au travail. Quand je demande à la maison, il y a plus de mains qui se lèvent. Là, je me dis, aïe, si en plus, dans notre vie privée, puis on n'a pas une société qui est adaptée aux familles aussi. Tu sais, on a une société qui est productive, mais qui ne prend pas en considération qu'il y a des familles. Déjà, quand on a des familles qui sont élevées, moi, je suis une grand-maman, j'ai plus de temps, j'arrive pas à maison avec des repas préparés, des devoirs à faire et toutes ces choses-là.
Oui.
Mais quand on a tout ça, plus un rythme de vie qui fait comme si ça n'existait pas dans la vie, plus la conciliation avec les s'occuper des plus vieux, avoir une implication sociale qui est importante aussi. Cet espace-là existe de moins en moins, puis on sait qu'il y a moins quand même d'implications qu'il y en avait il y a 10 ans ou il y a 15 ans, puis on comprend que les gens aient moins de temps puis moins d'énergie pour le faire, mais ça a des grands impacts sociaux aussi.
Oui, bien c'est ça, tu le nommais en début d'entrevue, l'espace que ça laisse pour créer des liens. Quand on ralentit un petit peu, tu sais, ne serait-ce que de voir davantage nos amis, notre famille, de rencontrer des gens, d'aller faire, par exemple, du bénévolat ou de s'impliquer.
Même d'arrêter dans la rue quand quelqu'un ne va pas bien, puis de demander « est-ce que ça va, est-ce que je peux vous aider? » Puis qu'on se dise « bien, je vais arriver une demi-heure plus tard au travail, mais je vais avoir pris en considération cette personne-là. »
Qui pourrait dire « moi, j'ai le temps de faire ça.
» Oui.
Souvent, bien, j'imagine que la réponse, ça doit être non, j'ai pas le temps de faire ça, tu sais, même parfois juste pour les aléas de la vie.
C'est ça.
Notre horaire est tellement chargé, surchargé, qu'on n'a même pas d'espace pour que quelque chose roule de travers,
ouais.
ou s'en aille dans une autre direction, puis qu'on doive l'adresser. Mm. On n'a même pas cet espace-là. Donc, te parler un petit peu de ce qu'on va retrouver dans la conférence, de ce dont tu aimerais te convaincre toi-même et ce à quoi tu aimerais que les gens soient sensibilisés au niveau du fait de ralentir. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent à s'inscrire. C'est gratuit, hein, en passant, cet événement-là. Gratuit. C'est gratuit. Hein.
Et si vous venez sur place, on vous invite après à prendre l'apéro
en
avec
plus,
nous.
En oui. plus, ça, ben là, ça c'est un gros plus de prendre le temps
oui.
de jaser, de jaser. Créer des nouveaux liens. C'est super. Donc, en ligne sur le site de la Maison du développement durable, www.lamdd.org, pour la conférence « Changer le rythme, un geste révolutionnaire », point d'interrogation.
Oui,
donc...
et puis je termine juste oui, en vas-y. Invitant les vas-y, gens vas-y. À aller sur le site de l'Association de la santé publique du Québec, qui viennent de mettre en ligne un manifeste « Ralentir ».
Intéressant.
C'est intéressant à lire, puis on peut adhérer au manifeste.
OK. Mm-hmm. Donc, décider de s'engager peut-être,
oui.
en quelque sorte,
puis
en adhérant.
Puis des fois, juste signer puis lire, ça fait... Déjà, ça nous permet de réfléchir.
Ça fait son chemin,
oui.
donc prendre le temps d'aller voir ça. Merci beaucoup, René, de ton passage à l'émission.
Bonne journée.
Bonne journée à toi. Et maintenant, je suis très heureuse d'accueillir Laure Varidel, qui est éco-sociologue et co-instigatrice à Mère au front, et Ashley Torres, chargée de mobilisation du mouvement Mère au front. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission. Bon, on fera pas semblant qu'on se connaît pas quand même. Parce qu'en dehors de l'effet durable, j'ai aussi une vie et d'autres chapeaux, dont celui de Mère au front. Donc, entre autres, aujourd'hui, on parle des 100 ans de Frédéric Bach. Hein. Le 8 avril dernier, il aurait eu 100 ans. Donc, il y a toute une panoplie de célébrations qui sont prévues pour ça. Il y a eu des visionnements commémoratifs aussi de ses créations. Et Laure, tu vas être la marraine.
Mm-hmm.
Tu as été
oui.
invitée à marrainer ces célébrations. Frédéric était un bon ami à toi. Est-ce que c'est pour ça, entre autres, qu'on t'a demandé d'être la marraine ou parce que vous portez d'emblée les mêmes missions de vie?
Je pense que c'est un peu les deux, en fait. J'essaye de... Ben, pour moi, d'abord, Frédéric Bach, son œuvre, avant de le connaître personnellement, a joué un rôle important. Je pense que c'est le visionnement de l'homme qui plantait des arbres alors que j'étais toute petite a été un élément déclencheur de voir cette histoire d'un homme qui, en plantant un arbre après l'autre, vient à changer complètement un écosystème, un environnement, mais aussi une dynamique sociale, comment ça a transformé une région. Pour moi, ça a été vraiment très, très porteur de sens, tant dans ce qui, par la suite, m'a suivi à dénoncer des enjeux, mais surtout à œuvrer à la mise en œuvre de solutions concrètement, puis d'être patient dans tout ça.
Mmh, oui, effectivement. Et je pense que tu poursuis très bien cette mission et cette œuvre.
J'essaie, mais je pense que comme dans l'histoire de l'homme qui plantait des arbres, bon, là, on parle surtout d'un homme qui plante un arbre à la fois, mais je pense que là où est-ce qu'on en est dans la société puis dans le mouvement, c'est de donner le goût à tout le monde de planter des arbres puis de voir le bien que ça nous fait à nous. Hein. On parlait de santé mentale tout à l'heure, mais l'engagement social, la création de liens concrets, dans ces mouvements-là aussi fait du bien. En tout cas, moi, ça a été le cas, puis c'est pour ça que ça fait si longtemps que je m'engage.
Oui, en effet. Et pour moi aussi, ça a été un film marquant, L'homme qui plantait des arbres. Je me souviens de l'avoir vu à maintes reprises quand j'étais enfant. Et ça me touchait profondément. Je ne sais pas si toi, Ashley, tu es en contact avec ça
non,
dans ta jeunesse.
Non, je ne pense pas. Je n'ai pas eu contact, mais justement, ça a pris cette occasion-là de juste apprendre un peu plus sur pas juste le personnage qu'il était, qu'il incarnait, mais aussi juste de qu'est-ce qu'il laisse en ce moment.
Oui, son legs.
C'est vraiment intéressant pour moi d'apprendre toute cette histoire.
Oui, à quel point il a marqué hein, toutes, plusieurs générations même. Là. Pas qu'une seule, plusieurs générations. Mm-hmm. Et là, avec le mouvement Mère au front, en 2022, vous avez fait une grande marche à la ville de Québec. Donc, 5000 personnes se sont mobilisées. Ça a été un grand moment.
En pleine COVID. Hein? Non, 5000 personnes, on peut dire « Ah, c'est pas tant que ça », mais dans le contexte de la COVID, c'était beaucoup, beaucoup de monde. Puis un jour de fête des mères aussi, qui n'est pas une journée facile à mobiliser parce que les gens, généralement, ils ont des engagements familiaux et tout. Donc, ils choisissent de venir le faire dans la rue, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. C'est d'autant plus touchant et percutant. Comment tu vois l'évolution du mouvement depuis cette marche-là? Est-ce que ça a été un jalon important pour Mère au front?
Oui, ça a été mobilisateur pour beaucoup de gens parce que c'était une marche qui était à la fois, évidemment, politique parce qu'on marchait à Québec puis on voulait porter un message à nos élus, mais c'était aussi très poétique. Il y avait beaucoup de beauté. La mise en scène avait été faite par Brigitte Poupard. Il y avait la forêt qui marche. Il y avait du silence aussi, ce qu'on voit peu dans les marches. Donc, et depuis ce temps-là, ben, le mouvement Mère au front a pris de l'ampleur. On a aussi réussi à aller chercher du financement pour engager une équipe. Donc, pouvoir outiller davantage tous les groupes de mères au front, parce que maintenant, il y a une trentaine de groupes partout à travers le Québec. Il y en a à l'extérieur, au Canada, dans des groupes de francophones à l'extérieur du Québec, même un groupe en Belgique. Donc, c'est important de pouvoir continuer à outiller ces mères qui sont, et ces grands-mères qui sont très occupées par ailleurs, puis qui ont besoin qu'on facilite leur vie, leur engagement, qui ont envie de sentir qu'elles appartiennent à un mouvement plus grand qu'elle, puis qu'elle contribue à prendre soin de cet environnement, prendre soin du vivant duquel l'avenir de leurs enfants dépend.
Oui. Toi, Ashley, est-ce que tu étais présente à cette marche à Québec?
Je n'étais pas présente. Par contre, j'ai trouvé ça très inspirant. Moi, je venais d'un épuisement. Je vivais un épuisement à ce moment-là militant. Je venais d'avoir ma petite fille. Elle avait qu'un an à ce moment-là. Mais j'ai vu ça, puis j'étais comme « Wow! » Quelle beauté qu'ils ont créée. Puis justement, voir des femmes, des mères mobilisées, ça m'a permis aussi de me repositionner comment je pouvais moi aussi militer maintenant que j'étais mère et que je venais de militantisme étudiant lors de 2019, dans les grandes mobilisations 2019 étudiantes pour le climat. Donc, ça m'a vraiment permis de dire, OK, maintenant, je pourrais peut-être m'impliquer ailleurs, puis de quelle manière je pourrais m'impliquer. Fait que c'est très inspirant de vous voir à la ville de Québec cette journée-là.
Surtout, comme tu le dis, dans un moment d'épuisement militant, où est-ce que tu remettais peut-être même en question à quel point tu allais t'impliquer encore maintenant que tu étais mère? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que je peux encore m'impliquer?
Puis comment, de quelle manière, puis de quelle ampleur? C'était très... c'était un moment, tu sais, le mouvement étudiant a pris tellement de l'énergie pour plusieurs jeunes... entre autres. Puis là, on venait dans un âge de comme, OK, de quelle manière je vais être capable de m'impliquer, puis qu'ils puissent avoir la même ampleur, parce qu'on a pris une certaine place que je sais, je reconnais que c'était quand même assez extraordinaire, puis que peut-être dans ma vie, j'allais plus pouvoir faire partie d'un mouvement aussi grand, mais de faire partie de Mère au front maintenant, je trouve ça super inspirant de voir autant de groupes militer ensemble, puis de femmes en plus. C'est tout à fait vraiment... quelque chose qui te donne encore plus d'énergie.
Oui, c'est ça. C'est très énergisant de voir ces grandes mobilisations-là, puis toute cette passion pour ce qu'on souhaite protéger ardemment. Et là, cette année, il y a un grand rassemblement qui est organisé pour la fête des mères, encore une fois, le 12 mai, au Parc Frédéric-Bac. Pourquoi le Parc Frédéric-Bac? Peut-être, Laure, tu aurais envie de répondre à cette question.
Mais c'est un lieu qui incarne la grande transition qui s'impose, dans le sens où c'était un site d'enfouissement à l'époque, un site d'enfouissement qui causait beaucoup de problèmes environnementaux et aussi qui était difficile pour les gens qui habitaient autour. C'est un quartier où il y avait beaucoup de minorités ethniques, des gens plus vulnérables économiquement, puis à d'autres égards. Donc, il y a eu une part de racisme environnemental dans ce coin-là, il faut se le dire. Et que là, maintenant, grâce à la mobilisation citoyenne, puis aussi grâce à un certain courage politique, une volonté de la part des élus, mais ce site d'enfouissement-là est devenu un parc, un parc qui fait du bien, où les gens vont marcher, où les gens vont créer des liens, où des gens vont se ressourcer, un lieu qui est nécessaire dans nos milieux urbains plus que jamais. Donc, de faire l'événement-là, ça donnait du sens, puis... pour moi, c'était aussi une manière d'honorer l'œuvre de Frédéric Bach, L'Art de rien. Puis une petite anecdote, un tableau que Frédéric m'a offert il y a très longtemps. Sur le tableau, il y a comme notre petite famille, puis il y avait un cerf-volant blanc avec, devinez quoi, un cœur vert dessus. Le cœur vert qui est le symbole de Mer au front. Il a peint ce tableau-là à une époque où Mer au front n'existait pas, évidemment, où ce symbole-là était, oui, un cœur vert, ça veut dire plein de choses. Mais là, pour moi, c'est comme, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh, wow! C'est comme s'il était là encore, s'il veillait sur notre mouvement, puis il nous insufflait la créativité qu'il avait, l'amour qu'il avait du vivant aussi, puis la nécessité de continuer à s'indigner, à canaliser notre colère face aux élus, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de colère, Frédéric, contre les élus, puis leur manière de prendre les décisions, puis à toujours prioriser des enjeux économiques sans tenir compte des impacts sociaux et environnementaux. Fait que pour moi, c'est tout ça ensemble. Puis le fait qu'il y ait un cerf-volant sur cette œuvre-là, puis c'est après qu'on ait discuté d'avoir des cerfs-volants pour la fête des mères que j'ai comme réalisé ça, puis j'ai fait comme... Ah, oh, des fois, il y a comme...
Des choses, des éléments.
Des synergies, des éléments de hasard, entre guillemets, puis on pas s'empêcher de se questionner, est-ce vraiment du hasard?
Ah oui, j'aurais envie de dire que non. Là, je te vois tout émue, ça me touche, Laure. Là, pour cette journée-là, qu'est-ce que vous souhaitez créer, justement? Qu'est-ce que vous souhaitez générer avec la collectivité qui va se joindre à cette journée de la fête des mères pour le mouvement Mère au front, pour l'avenir de nos enfants?
Moi, je pense, pour moi, une des choses qui est comme très importante, c'est d'aller nourrir cet espoir que... De nos jours, c'est difficile de garder. C'est difficile de nourrir cet espoir-là. Puis de prendre un moment en tant que mère et passer avec nos enfants et dire non, il y a encore du espoir, il y a encore du temps pour continuer à lutter pour leur futur. Fait que pour moi, c'est de nourrir ça. Puis je pense que les symboles qu'on va utiliser cette journée-là, le symbole que tu viens de nommer, le cerf-volant, incarne vraiment cette vision d'espoir. Mm-hmm. Parce que pour moi, ça me fait rappeler à... les enfants de Gaza encore qui lèvent des cerfs-volants parce qu'ils veulent encore. Tu sais, le sport qui existe sur cette planète, même si on vit des moments, je pense, difficiles en tant que société, de dire, hey, nous on croit à l'espoir, puis on croit à lutter pour changer pour un meilleur monde pour nos enfants. Et je pense que ça, c'est une partie que je pense que j'aimerais que cet événement puisse aller nourrir cet espoir-là aux gens.
Oui, dont on a franchement besoin. Laure, tu voulais réagir.
Oui, puis au-delà des cerfs-volants qui seront offerts, on aura plus de 500 cerfs-volants à offrir aux enfants à la fin du spectacle, parce qu'on va mettre en œuvre un grand spectacle, en fait, sous la direction artistique de Brigitte Poupard. Puis on veut justement que ce moment-là qui sera vécu par tous ceux qui vont venir... les nourrissent, leur donnent le goût de continuer, le goût de faire entendre leur voix, parce que c'est un rassemblement, encore une fois, qu'on veut à la fois politique et poétique, parce qu'il faut que nos élus entendent qu'il y a urgence d'agir, qu'il faut prendre soin du vivant, prendre soin de tous les individus qui constituent notre société, puis de cet environnement duquel on dépend, faire les liens entre les enjeux aussi. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à venir vêtu de blanc, en solidarité avec toutes les mères dans les pays en guerre. On pense à ce qui se passe en Palestine, mais aussi à Haïti, dans la Corne de l'Afrique. Toutes les mères qui sont forcées, à cause de la crise climatique, de quitter leur milieu de vie. On en parle peu, mais il y a déjà des millions de déplacés, de réfugiés climatiques. Souvent, c'est à l'intérieur même du pays, mais ça vient bouleverser les dynamiques politiques, créer souvent un terreau propice à la guerre. Ça a été identifié par des chercheurs pour la Syrie et autres. Donc, cette nécessité, encore une fois, de prendre soin en amont, de prévenir, c'est en créant des liens entre nous, en prenant soin les unes des autres et du vivant. Puis pour moi, c'est toute la beauté qu'il y a dans le mouvement Mère au front, cette envie-là d'être ensemble, solidaire pour la suite du monde.
Oui, et si chacun est capable, chacune est capable de repartir de cet événement-là avec un peu plus d'espoir dans le cœur pour l'amener dans sa vie, puis continuer cette lutte-là collective mais individuelle également. Je pense que ça va être beau déjà, tu sais.
Absolument, Maud. Puis quelque chose aussi, tu sais, on va écrire des revendications et les espoirs de nos enfants sur les cerfs-volants. Et il y a comme, il y a le jour même, mais il y a ce qu'on va faire après avec ces cerfs-volants-là qu'on veut aller apporter avec nos enfants à des élus pour leur rappeler leurs responsabilités, puis que c'est aujourd'hui qu'on choisit ce que sera demain, qu'ils ont du pouvoir maintenant, puis que plus on attend pour prendre des décisions courageuses, plus c'est difficile, puis plus on en subit déjà les conséquences. Donc, on veut leur insuffler du courage aussi.
Oui. Et quelles seront justement les revendications de cette mobilisation? Est-ce qu'il y a des cibles qui ont été identifiées par Mère au front, des mots, des phrases porteuses?
Bien, il y a le message général, ce que la demande générale de Mère au front, c'est qu'on veut qu'à partir de maintenant, toutes les décisions soient passées au crible de leur impact sur l'environnement. Ça, c'est la revendication qu'on a depuis le début qui nous mènera à prendre des décisions différentes à l'égard du caribou, à l'égard de la protection des milieux naturels en général. On sait qu'il y a plein de luttes locales, plein de luttes de Mère au front et d'autres groupes partout sur le territoire. Ça implique de protéger la qualité de l'air. On a une demande sur les enjeux des normes qui sont non respectées. Le ministère de l'Environnement établit des normes, puis ensuite de ça, dès qu'il y a une entreprise qui veut un droit spécifique pour y déroger, elle l'obtient. On pense évidemment à Rouyn-Noranda. On a un groupe très, très actif à Rouyn-Noranda que toutes les mères au front appuient. On veut le respect des normes sur l'arsenic, sur le plomb, sur le candium, sur le nickel. Fait qu'il faut qu'on fasse passer. Puis encore là, si on appliquait ce principe de passer au crible toutes nos décisions sur l'impact sur l'environnement, on prendrait des décisions très, très différentes, puis on ferait respecter les normes, évidemment. Fait qu'on en appelle un véritable changement de paradigme, un changement de priorité dans nos sociétés, dans nos manières de prendre nos décisions, puis rappeler aux élus que c'est eux qui mettent en place les règlements, l'architecture des choix qu'ensuite, nous, on va pouvoir prendre. Dire qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, prendre le transport en commun, mais qu'il n'y a pas d'offre ou alors qu'il faut prendre 3 heures au lieu de 20 minutes pour se rendre à un lieu X, ça n'a juste pas de bon sens. Fait qu'il faut faire des investissements aussi en conséquence, puis ça, c'est des choix de société. Puis nous, on est là pour leur transmettre des idées de solutions qui sont bien connues, qui sont celles que les chercheurs poussent aussi.
Oui. Oui, non, je pense que c'est important d'exprimer ces revendications-là. Et encore une fois, de s'assurer, justement, on a un gouvernement de la CAQ présentement qui ne prend pas au sérieux notre environnement, puis leur montrer qu'on est toujours là et que la mobilisation va continuer pour leur rappeler que cette pression-là ne va pas arrêter et ne va pas disparaître. On va juste continuer à lutter.
Et rapidement, pour conclure, votre plus grand souhait pour l'événement du 12 mai?
Qu'on soit très nombreuses et nombreux là pour que, de par notre présence, on insuffle cette volonté d'agir, le signe qu'on est là ensemble pour la suite du monde.
Puis d'être capable de créer des liens avec différents mouvements, je pense que ça, c'est aussi super important d'avoir d'autres groupes aussi que Mère au front qui vont venir se mobiliser avec nous.
Ashley et Laure, un grand merci d'être passé à l'émission ce matin. On invite évidemment tout le monde à aller sur la page Facebook de Mère au front, voir les détails de l'événement du 12 mai prochain au Parc Frédéric Bach pour la Fête des Mères, donc le grand rassemblement ensemble pour nos enfants. Et je nous souhaite d'être nombreuses et nombreux pour ce grand événement.
Merci
à toutes les deux. Une excellente journée. Alors, on s'en va vers une courte pause et restez tout prêts parce que tout de suite après, on s'entretient avec Geneviève Bélan et Henri Jacob à propos de leur livre « La dernière, si on la perd ».
Cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Un bail, je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
Chez Éduquer à loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
Avec Angle Droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zitto et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
CIBL 101.5, Montréal.
Nous voici de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5 et là, on s'apprête à s'entretenir avec les deux auteurs du livre « La dernière, si on la perd » aux éditions du Quartz, qui est maintenant disponible en librairie, en fait, depuis le 16 avril dernier. Et je vous dirais que c'est vraiment un 15 $ très bien investi. Bonjour Geneviève et Henri.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Très heureuse de vous avoir avec moi ce matin à l'émission. Pour parler un petit peu du livre, c'est une forme de correspondance entre vous deux que je trouve absolument touchante et révoltante tout à la fois. C'est la collection Brûlot, donc des éditions du Quartz, et tout comme Arsenic, mon amour, là, pour celles et ceux qui l'auraient lu et dont j'avais particulièrement aimé le traitement également là, dans cet échange. Je trouve que ça crée une très, très belle dynamique au niveau littéraire. Je me permets de vous présenter Henri. Tu as vécu 10 ans sur une île de la rivière Piché, sans électricité, sans eau courante. Tu es un militant écologiste depuis 51 ans. Tu travailles à mobiliser la population et à te mêler de ses affaires, condition essentielle pour assurer un avenir viable aux générations futures. Donc, tu as eu la chance de voir passer, la chance c'est peut-être drôlement dit, mais de voir passer une quarantaine de ministres de l'Environnement, donc, il y a de l'expérience là. Et Geneviève Bélan, tu es une féministe régionaliste. Tu résides à Val-d'Or, mais souvent à Rouyn-Noranda également. Tu assumes le titre de militante depuis 2020 et célèbres celui de maire depuis 2011. Tu travailles actuellement à acquérir le rôle de diplômée, à la maîtrise sur mesure en acceptabilité sociale. Et pour citer ce qui est écrit dans le livre, elle ne comprendra jamais que la protection de la vie dérange plus que sa destruction. Je suis bien d'accord avec ça. Et maintenant, plongeons dans les questions que j'ai pour vous par rapport à cette magnifique écriture. Qu'est-ce que cet échange vous laisse à tous les deux, le travail d'écriture ensemble? Si je commence par exemple avec Geneviève, qu'est-ce que ça t'a laissé, ce processus?
Ça m'a permis de plonger dans des questions qui m'habitaient depuis longtemps, puis dont une peut-être principale, parce que c'est moi qui ai initié le projet, puis une des raisons pour lesquelles je me suis adressée à Henri, c'est parce que je me demande souvent pourquoi, alors que tout le monde connaît un peu les grands enjeux que traverse notre monde, pourquoi certaines personnes ne ressentent pas le besoin de mener cette lutte-là ou ne comprennent pas la nécessité. Puis j'avais envie de voir, parce que Henri est un modèle quand même à part, là, il milite depuis très longtemps, puis il y a vraiment une constance dans son action, puis j'avais envie quand même qu'on plonge aussi dans les raisons qui motivent tout ça, puis tu sais, suite à cette écriture-là, mais aussi suite, tu sais, là, ça fait quelques activités de promotion, je dois dire, qu'on fait autour du livre, fait qu'on ça continue encore de stimuler ces réflexions-là, puis je pense que c'est celle qui continue un peu de m'habiter.
Et pour toi, Henri, qu'est-ce que ça te laisse, cet échange avec Geneviève?
Mais en fait, dans toutes les actions que j'ai entreprises au cours de ma carrière d'être humain, j'ai toujours un peu accepté les choses sans trop y réfléchir. Dans ce cas-ci, c'était d'écrire cette correspondance avec Geneviève. Quand elle m'a posé la question, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et le lendemain, je me suis dit où je vais trouver le temps pour le faire. Mais en fait, personnellement, moi, ce que ça me donne, c'est ça me donne l'obligation de mettre en écrit ce qui me trotte dans la tête souvent et que tu n'arrives pas nécessairement à mettre une logique là-dedans. Mais ce que ça m'a permis, avec Geneviève, de parler à quelqu'un d'une génération qui était beaucoup. Mais en fait, à la moitié de mon âge, à peu près. Ça fait qu'en fait, ça me permet de voir comment cette génération-là va faire face à la situation dans laquelle on se trouve. Et pour moi, je trouve que c'est d'une importance capitale. Quand on a vécu un certain nombre d'années, on doit remettre aux prochaines générations et surtout aux ceux qui vont venir, qui ne sont pas encore là, peut-être un peu d'espoir, mais surtout remettre un peu l'expérience qu'on a eue pour qu'ils n'aient pas à refaire le même chemin avec les mêmes obstacles, peut-être essayer de leur éviter quelques obstacles. C'est un peu dans c'est ce que ça me donne, c'est collaborer avec quelqu'un, c'est tout enrichissant.
Oui, puis quel trésor précieux pour nous aussi d'avoir vos écrits à tous les deux, puis vos réflexions par rapport à toute la situation environnementale, à la lutte en tant qu'individu, mais dans la collectivité également. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est justement le fait que vous soyez de deux générations extrêmement éloignées et comment vous vous nourrissez l'un l'autre et comment on apprend tout le monde ensemble de nos expériences respectives. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui ressort très bien dans votre échange. Je vais me permettre une brève lecture là, en page 21 par rapport au mouvement Mère au front. Là, on recevait justement, juste avant, Ashley Torres et Laure Varidel du mouvement. Mère au front apportait enfin un réconfort à mes préoccupations écoféministes. Parce qu'on va se le dire, malgré les belles avancées qu'on remarque sur le partage des tâches domestiques, la pression des lunchs zéro déchet et la fabrication d'écrans solaires DIY, ça traîne encore pas mal dans la cour des femmes. Ce qu'un chromosome peut déterminer. Donc ça, c'est Geneviève qui écrivait cette portion-là et ça m'a fait sourire en tant que maman, en tant que femme, de lire ça. Est-ce que pour toi, c'est dans ta façon de lutter ou dans ton approche de la lutte, le fait d'être une femme et d'avoir une part de charge mentale supplémentaire par rapport à ça, c'est significatif pour toi?
Bien oui, puis tu sais, dans l'extrait, tu sais, il y a quelque chose en fait que... En fait, je remarque que souvent, les femmes vont beaucoup être confinées des fois aux tâches, plus le recyclage, c'est comme je vais faire les lunchs zéro déchet, puis tout ce qui sont en fait des gestes qui sont des gestes de cohérence, de toute évidence, mais qui n'ont pas vraiment d'impact sur la grande lutte. Puis on je trouve ça dommage, en fait, puis tu sais, cette réflexion-là aussi, elle vient de mères autour de moi qui étaient complètement essoufflées de par ces gestes-là, alors que là, c'est ça qu'on se dit une fois, c'est nous, on fait ça, on lave nos blocs tard le soir, on est fatigué, mais de toute façon, à côté, il y a une mine d'or qui roule jour et nuit, qui fait en sorte que c'est un peu, on sentait un peu en perte de pouvoir, puis ça, il y a beaucoup ça dans le livre, là, cette impuissance-là d'être humain, d'être individuel qu'on peut avoir dans cette grande lutte-là. Je veux pas dire qu'il n'y a pas du tout d'espoir. Là. Puis ce que moi et Henri, on répète souvent, c'est que si on n'avait pas d'espoir, on n'aurait pas écrit le livre.
Parce non,
que
exact.
C'est sûr que c'est parfois sombre. Mais ouais, je trouve que les femmes... en fait, je trouve que Mère au fond donnait une place différente aux femmes dans la lutte. Puis ce que j'aime aussi du mouvement, c'est qu'il est beaucoup tourné vers le politique, de mettre de la pression pour que le courage politique puisse se déployer, puis plutôt que de toujours ramener ça aux petits gestes quotidiens qu'on peut faire dans un horaire qui est déjà rempli.
Oui, tellement. Et justement, tu termines, cette page-là se termine avec la question que tu poses à Henri. Et toi, Henri, sur quoi tu tiens? Toi, Geneviève, aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de répondre à cette question-là si je te la pose? Sur quoi tu tiens pour continuer cette lutte?
Sur quoi je tiens? Bien, tu sais, puis c'est aussi, c'est quelque chose que je viens souvent, c'est qu'on c'est pas si clair, hein, quand on est dans une lutte.
J'aime bien quand Henri nous dit à un moment donné, quand je me lance dans une lutte, j'évalue pas vraiment mes chances de gagner, j'évalue pas vraiment la tête de mon adversaire. Puis je pense que si on le faisait, probablement que ça nous paralyserait. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment un élan. Puis j'écoutais un podcast récemment, c'est à la balado de Fred Savard, il parlait de qu'on n'est plus à l'étape d'arrêter l'apocalypse, on est à l'étape de gérer l'apocalypse. Ça me parlait quand même beaucoup. C'est ça, c'est comme si, pour moi, ça allait du devoir. Moi, je pense que ça vient vraiment de ça. Puis c'est évidemment de la puissance du sentiment maternel. Là. Puis j'aime aussi rappeler que, quand je dis ça, c'est pour mes enfants, mais pour les enfants qui vont leur succéder, puis l'enfant des enfants, je pense qu'on a un devoir envers ces générations futures-là.
Oui, absolument. Et Henri, ça me ramène à toi, justement. Là, tu parlais, Geneviève, d'apocalypse à gérer. Henri, tu cites « se préparer mentalement au pire pour l'éviter à tout prix ». Et moi, je te pose la question, comment trouver un équilibre ou une espèce d'équilibre, en tout cas, dans cette pensée-là pour pas se retrouver tétanisé par le pire, justement, de pas se trouver paralysé en l'imaginant?
En fait, naturellement, je ne peux pas parler pour les autres, mais dans mon cas, c'est que ces questions-là, je me les pose pas. J'ai enseigné la survie en forêt, j'ai enseigné la survie à différentes personnes, dont à des Autochtones. Et une chose que j'ai appris, c'est que dans la vie, il faut essayer de se préparer au pire, donc pas cacher qu'il peut nous arriver des mauvaises réactions ou des mauvaises choses, mais en même temps, il faut se préparer à ça et à tenter de que ça arrive pas. Autrement dit, ça nous arrive. Fait que ma façon de penser, c'est un peu toujours de cette façon-là. Oui, si juste du côté rationnel, tout ce que je lis me montre qu'on est dans, je dirais, il n'y aura pas d'espoir. Mais quand je vois les humains, quand je vois nos enfants, quand je vois mes petits-enfants, là, je commence à avoir de l'espoir. Parce que je crois sincèrement que ce qui change le monde, c'est le monde, c'est le vrai monde. Les gens à la base. Pas nécessairement juste des gens qui ont beaucoup de connaissances, des intellectuels, des politiciens. Mais parce que j'ai vécu des victoires et j'ai vécu naturellement beaucoup de défaites dans les combats qu'on a faits. Mais quand on a gagné, c'était vraiment par solidarité. Quand on était les hommes, les femmes, les Autochtones, les Blancs et les différentes générations. Et on arrive à changer des choses malgré qu'on a des gouvernements qui sont contre nous, malgré qu'on a l'industrie qui est contre nous, on arrive à avoir des gains. Fait que moi, c'est à la base. Puis l'autre chose, je me dis un peu comme en survie, ça m'est arrivé une couple de fois, dont une fois, j'étais en mer, j'ai tombé à l'eau, je sais pas nager, mais j'ai juste dit, ben, je vais essayer de survivre le plus longtemps. Puis heureusement, le courant, après une couple d'heures, m'a ramené sur la berge. Wow. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai l'impression qu'on tomber dans l'eau et on peut se débattre ou dire il n'y a rien à faire, mais moi je préfère me débattre puis dire bon ben au moins j'aurais tenté ma chance et dans ce cas-ci ben au moins on va tenter de mettre ce que je dis mettre des grains de sable dans l'engrenage en espérant que ça grèche assez fort pour que les gens se mettent à réagir. C'est un peu ça ce qui me maintient.
Ce qui tient, ben oui, c'est ça, l'élan, puis de se dire « faut survivre, coûte que coûte ». Toi, Geneviève, est-ce que tu es du genre à te préparer au pire? C'est quoi ton réflexe dans la lutte?
Non, je pense pas que je me prépare au pire, puis je te dirais que ça fluctue aussi mon état de motivation, d'optimisme. Tu sais, là, en ce moment, je trouve ça difficile. Hier, on a appris le départ d'Émilie, comme co-porte-parole de Québec solidaire. J'ai lu les têtes brûlées aussi de Catherine Dorion récemment. Il y avait eu le départ de la mairesse de Gatineau. Puis moi, ça faisait partie de mes espoirs, de voir des personnes progressistes, des femmes aussi, avec toute l'empathie, la sensibilité, puis ça qu'on connaît aux femmes. Puis c'est de voir que le système épuise ces personnes-là, parce que moi, j'avais beaucoup... ça me parlait beaucoup, cette idée-là, de voir des styles différents là, montrés dans les structures de pouvoir. Puis, tu sais, on en parlait un peu... on a fait un lancement au Jour de la Terre à Val-d'Or, là, de devant notre monde. Mm-hmm. Puis, tu sais, Henri disait à un moment donné que lui, tous les exemples qui a vu de personnes qui ont tenté d'aller changer des choses de l'intérieur, ben souvent c'est ces personnes-là qui ont changé. Puis fait que ça me ramène, fait que je pense que ces temps-ci, je suis comme un peu dans une transition à me dire que je pense qu'en effet, c'est peut-être plus sur le terrain. Mais c'est soufflant. C'est ça, je pense que j'aimais ça penser qu'on peut aller dans l'opposition.
Oui.
Parce que c'est difficile d'être toujours dans l'opposition. Puis moi, je trouve que c'est une autre des choses qui me fascinait dans Harry, c'est sa capacité à aller au micro dans des salles hostiles, puis à aller parler dans des DAP devant l'industrie. Puis c'est pas facile, je l'ai fait aussi.
Ouais.
Puis à un moment donné, on a vraiment besoin de recharger nos batteries, puis être dans la construction, mais de toute évidence, je pense qu'on n'a pas le choix d'être sur le terrain.
Oui, bien c'est ça. Tu sais, j'allais justement citer le fait que vous abordez tous les deux le système politique actuel avec une démocratie plutôt douteuse, là, on s'entend là-dessus, notamment avec la réélection de la CAQ en 2022 qui vous a ébranlé. Et Geneviève, je te cite, dans le livre, tu indiques « Je fais partie de celles qui pensent qu'il faut investir les structures politiques pour faire bouger la société en bloc et effectuer des changements à la source des problèmes. » Et je te comprends tellement d'être ébranlée en ce moment, justement, avec les différents départs de personnes qui étaient pour nous comme une source d'espoir, de dire « Hey, il y en a, il y en a peut-être peu, mais il y en a qui sont là, puis qui essaient, tant bien que mal, de se faire une place, puis d'apporter une parole qui est différente, qui va dans le sens dans lequel on voudrait aller pour la préservation de la planète. » Donc là, on se retournerait plus vers... Bien, il ne faut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres personnes comme ça, des trésors de personnes qui pourront aller militer au sein même des politiques. Mais là, on serait plus dans la politique de l'extérieur pour avoir un impact plus efficace.
Ouais, ou dans les, tu sais, puis ou peut-être dans des plus petites structures, tu sais, je pense par exemple, tu sais, ici, je sais que c'est pas pareil dans toutes les municipalités, mais par exemple à Val-d'Or, nous, il y a pas de parti, tu sais, de moi je crois plus peut-être que les changements peuvent s'opérer plus près de nous, tu sais, dans les villes, les communautés, tu sais, moi je crois beaucoup, j'aime beaucoup les à Montréal, on voit beaucoup des assemblées de ruelles, des gens qui... C'est ça, je crois beaucoup à ça. Peut-être des changements qui vont partir de plus structures, mais quand on passe à des plus grandes structures comme les paliers de gouvernement, provinciaux, fédéraux, moi, ce que je vois en ce moment, ça me déçoit beaucoup.
Oui, je peux comprendre. Henri, tu l'as nommé un petit peu tout à l'heure, le lien entre les différentes luttes. Je pense notamment présentement au documentaire de Malartic qui roule beaucoup au Québec. On est content de voir ça dans les salles. Il y a Rouen. Et tu parles, Henri, des luttes qui ont été gagnées. Tu en as mentionné un petit peu tout à l'heure. Puis celles qui étaient perdues avant même d'avoir pu dire quoi que ce soit, si on pense à Malartic. C'est comme une lutte vaine, finalement, où est-ce qu'il n'y a pas eu de place pour les citoyens, les citoyennes, pour que quiconque ait un droit autre que la méga-entreprise. Quelle différence essentielle tu vois entre les luttes gagnées et celles perdues?
Mais en fait, même dans le cas de Malartic, parce que j'étais là au départ à Malartic, puis ça m'a coûté, je ne sais pas si je l'ai écrit dans le livre, mais ça m'a coûté mon chalet. Parce que des gens se sont vengés parce que je m'étais prononcé contre carrément au début dans le cas de Malartic.
Okay.
En fait, la différence, c'est là. C'est quand la population, exemple, une population comme Malartic, malheureusement, c'est une population que je prendrais le mot poqué parce que ça faisait des années qu'il n'y avait pas grande activité économique, donc la vitalité diminuait, les commerces fermaient. Et là, quand un promoteur est arrivé en leur faisant croire que tout le monde serait heureux, puis que naturellement, ce serait le paradis. Naturellement, aujourd'hui, on le voit dans le film, les gens ont déchanté et ce qu'on a vu encore, et ce que moi, je craignais toujours, c'est que nos gouvernements fassent en sorte aménager nos lois, aménager nos règlements pour permettre ce genre de choses. Parce que imaginez, là, on ne faisait pas juste une mine comme on a fait habituellement ici en Abitibi, une mine souterraine qui prenait ayant un certain impact, mais limité sur le territoire. Là, on déménageait carrément le corps de la ville, même de la ville. On déménageait tout ce monde-là. Et là, on disait, on va vous faire quasiment un paradis en creusant un trou qui, en fin de compte, ça va prendre des millénaires avant qu'il y ait de la vie qui se crée là-dedans.
Mais oui.
Mais dans tous les cas, quand les batailles qu'on a réussies, c'est vraiment quand à la base, les gens disent, nous autres, on n'accepte pas, on trouve que c'est immoral, même si c'est légal, on trouve ça immoral de faire un tel projet. Mm-hmm. Puis on va se mobiliser et c'est... Dans les batailles que j'ai eues, ça n'a jamais été des gros groupes qui ont fait ça. Même la bataille qu'il y a eu de la question du pipeline qu'on voulait nous traverser SOS en passant par l'Abitibi pour venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est les gens à la base ici, les groupes en Abitibi et les groupes au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont été les premiers à dire « Nous autres, on veut pas que ça se passe et ça se passera pas, même si la légalité, même si on nous promet le paradis, qu'il n'y aura plus de pollution, etc., etc. » On a commencé là, et là, ça a fait boule de neige, et les groupes se sont mis à s'associer à nous. Malgré que le gouvernement avait, et notre premier ministre, le ministre de l'Environnement, le ministre à vocation économique, avaient tous donné leur accord avant même qu'il y ait des audiences. Tout ça, il y a eu des centaines de mémoires de citoyens et de petits groupes qui ont fait en sorte que ce projet n'a pas eu lieu.
Mm-hmm.
C'est là que, moi, malheureusement, notre système a été... Comment je peux dire? À la longue, c'est détérioré, c'est comme rouillé. On ne l'a pas réaménagé. Ça fait qu'on reste avec un principe. D'ailleurs, on est d'un système britannique bipartite et il y a 4 ou 5 partis. Déjà là, ça ne fonctionne pas. Parce que un parti comme le parti qui est au pouvoir présentement, la CAQ, elle gouverne avec à peu près 23 à 25 % de la population qui a voté pour elle. Donc, ça veut dire que 75 % de la population qui n'est pas nécessairement d'accord. Fait que c'est pour ça que, malheureusement, on est obligé de se battre plus à l'extérieur et de dire, ben, le pouvoir qui nous reste, c'est le pouvoir citoyen. Et c'est dans ce sens-là que moi, je passe ma vie à dire, ben, on va se battre. Puis oui, idéalement, si on peut finir par changer notre système politique, soit un genre de proportionnel, où les idées auront plus d'importance que simplement la règle de la majorité. Peut-être que l'on va réussir à avoir une vraie démocratie qui va être participative et faire en sorte qu'on va pouvoir nous proposer des projets, la société va pouvoir proposer des projets qui sont acceptables et bénéfiques pour la société et pour l'environnement.
On va se croiser les doigts, effectivement, pour qu'éventuellement la pression se poursuive et qu'il y ait une transformation de fond. Disons que ça aiderait plusieurs de nos luttes et ça en éviterait plusieurs également. Je me permets de te citer, Henri, dans le livre concernant l'instinct de guerrier. « Je ne l'ai jamais senti se développer et pourtant, il a fait de moi ce que je suis devenu, un vieux militant qui agit plus par instinct qu'en se basant sur des analyses profondes. » Tu l'as nommé tout à l'heure aussi, là, il y a l'élan, Geneviève aussi te dit ça, on réfléchit pas trop, on y va parce qu'il faut y aller. Selon vous, qu'est-ce qui va donner l'impulsion aux populations et aux nouvelles générations de se lever, de continuer à se lever? On parle de la fatigue militante, on parle de fatigue généralisée aussi. Qu'est-ce qui pourrait nous donner, ou en tout cas perpétuer cette impulsion-là? Je commencerai peut-être avec toi, Geneviève.
Ben, je pense que déjà, tu sais, si les enfants ont déjà des parents, tu sais, qui sont conscientisés à ces questions-là, c'est ce que moi j'avais pas, par exemple. Tu sais, c'est arrivé vraiment plus tard. Mon engagement, même j'en parle un peu dans le livre, il y a beaucoup de choses même moi qui sont passées par la musique, des groupes de musique engagés. Tu sais, on sait pas tout le temps par où ça arrive ces affaires-là, mais dans mon cas. C'était ça, mais tu sais, déjà, moi, mes enfants de 10 et 12 ans sont très, très éveillés à ces questions-là. Fait que j'ai l'impression que déjà, ils partent avec une certaine avance. Puis à la fin, en fait, on a laissé la parole à mon fils et au petit-fils d'Henri, Mirko et Victor. On leur a fait une interview, puis c'est eux qui font la postface parce qu'on voulait leur donner le dernier mot. Puis, à un moment donné, on leur demande s'ils sont éco-anxieux. Puis, mon fils répond, non, on se sent éco-conscient.
Oui.
Puis, on a rencontré aussi, c'est la semaine passée, Henri et moi, on est allé dans une classe de 4e et 5e année, où il y a ma fille et sa petite-fille et son autre fils. Puis, c'était vraiment, moi, ça, je trouve ça super enrichissant de toutes les rencontres qu'on fait, de pouvoir aller... rencontrer des enfants, puis prendre un peu le pouls. Puis moi, je trouve que dans la certaine naïveté des enfants, il y a ils peuvent nous sortir des phrases tellement incroyables, puis résumer des situations super complexes en tellement peu de mots, parce que dans le fond, des fois, ce qui se passe, ce qu'on rencontre, c'est juste que ça a juste aucun sens. Tu sais, on s'est habitué à des réalités de, tu sais, des fois, nos enfants vont dire, ben, si on sait que les coupes forestières en ce moment nuisent à l'habitat des caribous, puis les caribous sont en danger, pourquoi on n'arrête pas?
Mais oui.
On n'a pas vraiment de réponse, parce que c'est vrai que c'est complètement absurde. Fait que moi, en tout cas, je trouve que de parler de ça avec eux jeunes, c'est une bonne chose. Puis, tu sais, des fois, peut-être qu'on voudrait éviter de le faire pour éviter la peur.
Mm-hmm.
Mais je pense pas que leur cacher des choses, c'est la bonne solution. Puis, ils sont vraiment capables d'entendre ces propos-là.
Et Henri, rapidement, pour terminer, qu'est-ce qui donnerait l'impulsion?
Naturellement, tout ce que Geneviève dit, je suis en accord. Il y a une autre chose qu'on peut pas connaître, c'est un peu ce qui peut arriver par des effets naturels. Moi, en 1976, j'ai survécu un tremblement de terre en 45 secondes au Guatemala. En 45 secondes, il y a eu plus de 20 000 morts. Et après les 45 secondes, quand on s'est retrouvé à l'extérieur, tous les gens se parlaient. Tous les gens avaient parce que l'urgence. Et peut-être que la société, malheureusement, elle a peut-être besoin d'être rendue acculée au pied du mur ou sur le bord de la falaise au moment où ce que les gens commencent à débouler pour réagir. C'est malheureux, mais peut-être que ça, et avec tout ce que Geneviève a dit, je pense que de toute façon, à mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de choix. On est obligé de continuer. Puis, ça va arriver. Il va y avoir on va avoir des pertes, mais il va y avoir aussi des gains. Et au final, ben, on verra qu'est-ce qui va arriver.
On va garder le cap sur les gains possibles et continuer cette lutte ensemble. Merci beaucoup à tous les deux, Geneviève Bélan, Henri Jacob, d'avoir pris parole ce matin à l'émission.
Merci à toi, c'est super agréable.
Très agréable de converser avec vous et vraiment, je suggère fortement cette lecture qui m'a bouleversée. Donc, je le répète, La dernière, si on la perd, par Geneviève Bélan et Henri Jacob aux éditions du Quartz, disponible partout en librairie. Allez vous procurer ça, juste 15 $, ça vaut la peine pour plonger dans cette réflexion, cet échange absolument fabuleux. Merci à tous les deux encore une fois et une excellente journée.
Bonne journée.
Merci. Au revoir.
On se retrouve déjà à la fin de l'émission. J'en profite pour vous indiquer qu'il y a le Sommet Climat Montréal qui s'en vient le Sommet Climat Montréal, ça le dit, à Montréal. Donc, les 7 et 8 mai prochains, je vous invite à aller voir la programmation qui est fort intéressante en ligne. Donc, sommetclimatmtl.com pour avoir tous les détails et participer largement. Il y a plein de belles activités prévues dans ce cadre-là. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve avec Alexandre Escure pour la Minute de Culture Générale. Une seconde entrevue avec Ashley Torres de Marot Front, que vous avez entendu en début d'émission, qui viendra nous parler du sujet des femmes et des mères en environnement. On parle équité, diversité, inclusion en milieu de travail avec Nabila Garnati, agente de développement à Concertation Montréal, et Saba Khan, qui est directrice générale de la Fondation David Suzuki Québec et Atlantique. Nous sommes en rediffusion tous les lundis, 8 h. Un grand merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Et vous pouvez nous retrouver en rafale sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. Une excellente journée à vous sur nos ondes.
Habiter dans une auto pendant 8 besoin d'un abri, d'un petit chez moi. Maman, plus besoin d'un abri, besoin d'un abri, d'un petit chez moi.
Ici Philippe Papineau et je suis à la barre de l'émission Francophile tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique en français, un pied dans le son du moment et l'autre un peu plus nostalgique. À tout de suite.
Il y a une maudite.
Tu viens-tu te foncer dans le porte-patio, Gaëtan?
Mais non.
Voyons que je t'ai vu.
C'est mon émission, vous commencez.
Voyons donc, Gaëtan, c'est un annonce, c'est le mercredi. Ben, les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
CIBL, au cœur de la culture.